Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together. Schumann is speaking.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique européenne, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'An.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Européens, votre rendez-vous mensuel pour découvrir l'Europe et ses différentes thématiques. Aujourd'hui, notre ami Timur est enrhumé, donc je vais le remplacer. Je suis Marc, le président de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain. Et aujourd'hui, nous allons parler des élections législatives en Tchéquie, aux Pays-Bas, ainsi que des objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre. Et enfin, des capitales européennes de la culture.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe.
Passons maintenant à l'actualité européenne, les élections législatives en Tchéquie et aux Pays-Bas. Les sondages avaient cette fois vu juste. Avec plus de 34% des suffrages exprimés, le parti populiste ANO, dirigé par l'ancien Premier ministre Andrej Babiš, est arrivé en tête des élections législatives en République tchèque. Durant la campagne, ANO a promis de plafonner les prix d'énergie, d'abaisser l'âge de la retraite ou encore de limiter le soutien militaire à l'Ukraine. Avec 80 sièges sur les 200 que compte la Chambre des députés, le parti est en position de force pour composer un nouveau gouvernement. Il devance nettement la coalition sortante, SPOLU, ce qui veut dire « ensemble », menée par le Premier ministre libéral-conservateur Petr Fiala, qui obtient un peu plus de 23% des voix. Derrière eux, on retrouve des libéraux, le parti pirate, puis un parti d'extrême droite, Liberté-Démocratie directe, avec près de 8%. Pour la première fois, le mouvement Motoristé Sobé, les automilistes pour eux-mêmes, une formation conservatrice et eurosceptique aux positions proches de l'extrême droite, fait également son entrée à la Chambre des députés. Le 29 octobre, aux Pays-Bas, Rob Jetten, dont le Parti des réformateurs est sorti vainqueur des élections législatives néerlandaises, a par contre déjoué les pronostics en remportant une victoire électorale surprise en devançant de justesse le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders. Cette victoire très serrée, avec moins de 30 000 voix d'avance, place Rob Jetten en position de devenir le plus jeune chef de gouvernement et le premier Premier ministre ouvertement homosexuel de la cinquième économie de l'Union européenne. Geert Wilders a reconnu sa défaite. Auparavant, il avait partagé sur les réseaux sociaux des allégations infondées d'irrégularité électorale. Autre information, à l'approche de la COP30 à Belém, Brésil, les ministres européens de l'environnement ont finalement approuvé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2035 et 2040. 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris, à quelques jours de la COP30, l'Union européenne envoie un signal disons mitigé sur ses ambitions climatiques. Le 5 novembre, après d'intenses négociations, les 27 ministres de l'Environnement ont arraché un accord sur des objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2035 et 2040. Le plan climatique pour 2035, communiqué aux Nations Unies dans le cadre de l'accord de Paris, vise une réduction des émissions de l'Union européenne entre 66,25% et 72,5% par rapport au niveau de 1990. Un objectif non contraignant, mais qui devait être adopté à l'unanimité des 27 États membres. La cible à l'horizon 2040 reste une baisse de 90% des émissions, proposée par la Commission européenne en juillet, mais assortie de pas mal de flexibilité. À la demande notamment de la Pologne, les États ont approuvé une clause de révision tous les 2 ans, afin d'ajuster l'objectif si nécessaire. Le recours aux crédits carbone internationaux est facilité. les États membres pourront financer des projets de décarbonatation hors d'Europe pour compenser une partie de leurs émissions. Comme d'autres, cette mesure suscite de vives critiques de la part des organisations non gouvernementales environnementales. Adopté à la majorité qualifiée, l'accord sur 2040 n'a pas reçu le soutien de la Hongrie, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Pologne. La Bulgarie et la Belgique se sont abstenus. Le Parlement européen doit encore adopter sa position avant de négocier avec le Conseil, étape préalable à l'entrée en vigueur officielle de cet objectif.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe.
Et maintenant, le sujet du jour, la capitale européenne de la culture. Chaque année, ce titre est attribué par l'Union européenne à une ou deux villes du continent. L'idée est de célébrer ce que l'Europe a de plus précieux, sa diversité culturelle, son patrimoine, sa créativité de ses habitants. Ce programme a été créé en 1985 à l'initiative de la ministre grecque de la Culture, Mélina Mercouri. À l'époque, elle voulait rapprocher les Européens grâce à la culture, montrer que l'Europe, ce n'est pas seulement une économie ou une politique commune, mais aussi un espace vivant d'échanges artistiques et humains. Être capitale de la culture, ce n'est pas seulement organiser des festivals ou des expositions. C'est surtout une occasion unique de repenser l'identité d'une ville, de stimuler la création, d'impliquer les habitants et de partager une nouvelle image du lieu avec le reste de l'Europe. Pendant une année entière, la ville choisie devient une scène culturelle européenne où se croisent artistes, projets citoyens, initiatives locales et internationales. Chaque capitale élabore un programme culturel spécifique, souvent autour d'un thème central qui reflète son histoire, ses défis et ses espoirs. Le titre attire non seulement des visiteurs, mais il renforce aussi la fierté locale et la cohésion sociale. Il laisse très souvent un héritage durable, qu'il soit culturel, urbain ou humain, de nouveaux espaces culturels, des réseaux d'artistes ou tout simplement un nouveau regard sur la ville. Depuis sa création, plus de 60 villes européennes ont eu l'honneur de porter ce titre. On peut citer Athènes, la première en 1985, mais aussi Paris, Glasgow, Lille, Marseille, Essen, Mons ou encore Plovdiv en Bulgarie. Toutes ces villes ont utilisé la culture comme un levier de transformation et d'ouverture. Et bientôt, en 2025, ce sera au tour de Chemnitz, en Allemagne. Cette ville de Saxe représentera son pays aux côtés de Nova Gorica, une ville slovène située à la frontière avec l'Italie. Chemnitz, c'est une ville de l'est de l'Allemagne, marquée par son passé industriel, mais qui se réinvente aujourd'hui grâce à la culture, aux habitants et aux projets européens. Et d'ailleurs, elle n'est pas très loin de la région d'où vient notre volontaire allemande, Eva.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe.
Eh bien Eva, à toi de nous parler de Chemnitz.
Merci Marc de nous avoir expliqué le contexte de la capitale européenne de la culture. Maintenant, je voudrais parler de Chemnitz et de mon expérience personnelle de cette ville en tant que capitale culturelle. Parce que pour moi, c'est très spécial, car je viens de Zwickau, juste à côté, et je peux voir de près comment la toute région se transforme grâce à la culture. Longtemps connue comme une ville industrielle de Saxe, Chemnitz a connu des grandes transformations au fil du temps. Sous la République démocratique allemande, et portait le nom de Karl-Marx-Stadt, en hommage au philosophe allemand dont la tête monumentale, le célèbre Michel, reste aujourd'hui un symbole fort de la ville. Après la réunification, Chemnitz a dû redéfinir son identité entre héritage industriel, créativité contemporaine et ouverture vers l'Europe. Le projet Cité Ancienne, littéralement, voire l'invisible, est au cœur de sa candidature. Il cherche à mettre en lumière ce qui est souvent caché ou ignoré. Le quartier moins connu, les initiatives citoyennes, les artistes indépendants, mais aussi les petites histoires du quotidien. L'idée, c'est de montrer une autre image de Chemnitz, loin des clichés et de prouver que la culture peut émerger partout, même dans des lieux marqués par l'industrie et le silence. Et pendant cette année, plus de 330 projets culturels ont été réalisés. Expositions, concerts, installations urbaines et ateliers, particulièrement pour la jeunesse. L'objectif est de faire de Chemnitz un symbole de transformation, une ville qui se réinvente grâce à la culture et à ses habitants. J'ai déjà eu l'occasion de participer à cette dynamique culturelle dans ma région. Par exemple, j'ai visité le musée Gunzenhauser à Chemnitz, qui abrite une collection impressionnante d'art moderne allemand. Et cet été, à Zwickau, j'ai même pris à part d'un concert lié à la programmation de Chemnitz 2025. J'y jouais du piano, entouré d'autres jeunes musiciens de la région. C'était une expérience incroyable qui montrait l'énergie et la créativité de notre région. Pour moi, qui appréciais beaucoup la culture, c'est fascinant de voir comment la culture peut rapprocher les gens, raconter l'histoire et la vie et ouvrir des perspectives sur l'avenir, ici dans mon propre région.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe.
Et maintenant, pour terminer, quoi de neuf à la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain ? Le 24 octobre dernier, nous avons participé à la journée de valorisation de projets jeunes de l'Ain, FOL 01, à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse. Eva, là aussi, a pu apporter son témoignage. Nous sommes également intervenus auprès des jeunes de la mission locale Bresse-Dombes-Côtière, comme nous le faisons très souvent. Et nous travaillons activement avec les services de l'État à un projet de mobilité des travailleurs de jeunesse et à préparer notre programme d'animation 2026 qui sera, nous l'espérons, dense et varié autour de deux temps forts, le joli mois de l'Europe en mai et la deuxième édition de nos journées Schumann durant l'automne. Et enfin, une dernière petite nouvelle que je viens tout juste d'apprendre, et elle est très importante pour nous, c'est que l'Union européenne vient de reconnaître notre label Europe Direct 2025-2030. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça nous donne un gros signe de reconnaissance. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci pour votre écoute et merci à Eva pour son engagement européen. Et à bientôt.
Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together. Schumann is speaking.
L'Europe ne se fera pas. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique européenne, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain.